Donc, je m'appelle Christian Lerme, je fais partie du club d'astronomie Agnès Hepper-Bourges à Fléac. Nous sommes une section d'une MJC, c'est une petite section d'astronomie. Et nous avons décidé donc de participer ici. Vous avez en face de vous un amateur pur jus, hein. J'ai plutôt l'habitude de m'adresser à des enfants de primaire et à des gens qui découvrent l'astronomie plutôt qu'à des amateurs éclairés. Donc, j'ai préparé ça dans l'optique que je pensais que c'était pour des gens qui découvraient l'astronomie. Donc, transit de Mercure, pardon. Le lundi 9 mai, je pense que vous avez tous ce qui va se passer ce jour-là, va se produire un transit de Mercure. Donc, un transit astronomique est un phénomène qui se produit donc lorsqu'un objet céleste s'intercale entre un observateur et un autre objet céleste, le premier objet paraissant se déplacer devant le second. Cela nécessite que les trois objets soient alignés. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, la petite vidéo que j'ai téléchargée vous montre le transit de Vénus de. De 2012. Donc là, ce sont des images qui viennent du satellite de la NASA SDO. Donc, il faut savoir quand même que, en ce qui concerne Vénus, les transits sont beaucoup plus visibles et beaucoup plus impressionnants que ce qu'on va voir donc le 9 mai. Donc, vous avez des images dans les différentes longueurs d'onde. Voilà. Donc, on retrouve les mêmes phénomènes que lorsqu'il y a des éclipses. Donc, les contacts. Donc, là, au moment où le troisième contact, top, quatrième contact, et ici le premier et le deuxième, hein, au moment de l'entrée de la planète devant le Soleil. Donc, on ne va pas aller plus loin, de toute façon, après, c'est des images qui sont répétitives. Donc, en fonction de la taille de la planète qui passe devant le Soleil, on peut avoir différentes sortes de transits. Et on en a eu de beaux exemples ce matin avec la Lune et le Soleil. Donc, je vais vous montrer quand même les. Donc, dans certaines conditions sont remplies, comme quand le disque, les diamètres apparents de l'étoile qui est derrière et de la planète qui est entre les deux sont à peu près identiques. On a donc des éclipses totales. Hein, vous en avez eu de beaux exemples ce matin. Voilà. Ou alors, quand le disque noir, là, pour la Lune, est légèrement inférieur, on a des éclipses donc annulaires. Voilà. Bon, tout ça, ce sont des images qui viennent pas de moi, c'est des images que j'ai récupérées sur Internet. Mais on peut aussi trouver des transits qu'on a eu la chance de pouvoir voir hier soir entre une planète comme Jupiter et ses satellites. Allez. Donc voilà, Io devant Jupiter, qu'on a pu observer hier soir. On a eu la chance que le ciel veuille bien se dégager. Voilà, et là on a les plusieurs. Donc vous avez Callisto là, avec son ombre ici, et Io. Et on peut remarquer hein, puisque les heures sont différentes, que tout ça s'est déplacé, en particulier que Io, qui est plus proche que Callisto, s'est déplacé plus vite que celui-ci. Donc, les transits de Mercure. On peut rappeler que le diamètre du Soleil est à 1 400 000 km. Le diamètre de Mercure ne fait que 4 880 km. Du fait de sa proximité avec le Soleil, ils sont plus fréquents que ceux de Vénus. On en compte à peu près 13 fois par siècle. Soit en mai, tous les 13 et 33 ans, avec un diamètre angulaire de 12 secondes d'arc, parce qu'à ce moment-là, il se produit au moment où il est le plus proche, où la planète de Mercure est plus proche de la Terre. Donc, le petit point sera un peu plus brillant, un peu plus visible que ceux de, qui se passent en novembre. Donc, en mai, tous les 13 ou 33 ans, et en novembre, tous les 7, 13 et 33 ans, avec un diamètre angulaire de 10 secondes d'arc. Les transits les plus récents ont eu lieu le 7 mai 2003 et le 8-11-2006. Les prochains sont donc le 9 mai et après, ça sera en 2019, le 11 novembre. Et pour en voir un entièrement, je crois qu'il faudra aller jusqu'en 2039. Il est intégralement visible en Europe et chez nous, il va commencer donc à 13h12. Heure locale, jusqu'à 20h42. Donc, comment nous avons envisagé avec le club de faire une observation publique. Donc, on va faire paraître une annonce dans la presse et puis inviter les gens à venir voir ce qui se passe. Donc, comment observer sans danger? Bon, vous connaissez tous les risques. Donc, c'est les filtres Millard, les filtres à l'ouverture. Mais ce qu'il ne faut pas faire, bon, c'est tout ce qu'on entend souvent, les verres passés à la bougie, superposer les lunettes de soleil, les radios, ainsi de suite. Donc à quoi servent aussi les transits? C'est une des méthodes qui permet de rechercher les planètes extrasolaires, du fait de la variation de luminosité de l'étoile qu'elle provoque quand la planète passe devant. Donc, une méthode photométrique qui repose sur une mesure des faibles variations périodiques de la luminosité d'une étoile lorsque la planète passe devant elle. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Donc voilà, on a la courbe de luminosité ici. Et au moment où la planète passe devant l'étoile, donc la courbe chute. Ouais. D'accord. Et si vous avez plusieurs types de variations de luminosité, on constate que la courbe est fonction de et la taille de l'étoile et la taille de la planète. Donc la courbe varie à ce moment-là. Alors, quelles informations obtenues par les astronomes? Donc, ils arrivent à déterminer l'orbite de la planète, sa masse, le diamètre, la densité, également la composition chimique et la température de l'atmosphère. Les inconvénients, l'exoplanète doit être suffisamment grosse pour pouvoir provoquer une chute de variation significative. Hein. Pouvoir différencier également les variations de luminosité propres à l'activité de l'étoile. Le transit doit se reporter un grand nombre de fois pour pouvoir valider les résultats. Et le détecteur doit se situer dans l'espace pour éviter toutes les perturbations atmosphériques. Et aussi, il faut aussi bien l'observateur que l'étoile et la planète soit alignée, ce qui est relativement rare quand même dans l'espace. Donc voilà ce que j'avais préparé pour vous présenter.